Bienvenue pour cette exploration des sources du jour. On va se pencher sur des dynamiques assez fortes qui traversent l'actualité africaine.
Tout à fait.
D'un côté, on a des promesses financières vraiment colossales pour le développement. Et puis de l'autre, des systèmes qui semblent un peu drainer les richesses et puis des défis institutionnels très concrets.
Oui, c'est une tension intéressante à examiner, je trouve. Comment on concilie en fait l'ambition qui est affichée par certains acteurs externes avec les réalités économiques et, disons, la solidité parfois un peu précaire des institutions sur le terrain ?
On pourrait peut-être commencer par cette annonce qui a fait pas mal de bruit.
Oui, alors l'engagement de Bill Gates, investir la majeure partie de sa fortune, on parle de 200 milliards de dollars quand même, sur 20 ans, via sa fondation et spécifiquement pour le développement en Afrique. C'est ça ! Les priorités affichées, santé, éducation, économie. Il a même cité le Rwanda comme exemple pour l'utilisation de l'IA en santé. L'échelle est, assez vertigineuse.
Absolument. L'ampleur est sans précédent. Ça suscite évidemment beaucoup d'espoir. Mais bon, au-delà de l'effet d'annonce, la question cruciale, ça reste celle de l'absorption, de l'efficacité de tels fonds.
Bien sûr. Comment garantir la transparence, l'impact réel sur le long terme ? Surtout, cet afflux potentiel de capitaux, ça contraste quand même très fort avec un autre phénomène, les fuites massives d'argent.
Ah oui, vous faites référence à ce rapport de Tax Justice Network. Le chiffre est saisissant. L'Afrique perdrait jusqu'à 513 milliards de dollars par an.
Par an ?
À cause des flux financiers illicites.
Exactement.
C'est plus du double de la promesse de Gates, mais là, c'est en pertes annuelles.
C'est ça, le paradoxe. Et le rapport souligne bien que si les pays africains contribuent en fait assez peu à l'opacité financière mondiale, eh bien ce sont eux les principales victimes. Les facilitateurs qui sont pointés du doigt, ce sont souvent de grandes économies, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Luxembourg.
D'accord.
Et ces sommes qui s'échappent, ça représente des budgets colossaux qui sont perdus pour la santé, l'éducation, les infrastructures. C'est terrible comme situation. On parle d'injecter des milliards d'un côté.
Et des centaines de milliards fuient de l'autre via des mécanismes opaques.
Voilà. Ça pose une vraie question de justice fiscale à l'échelle mondiale, en fait.
Et comment lutter contre cette opacité, ça semble être un défi immense. Peut-être même plus complexe que de gérer l'aide qui rentre, non ?
C'est très complexe, oui.
Et ces contraintes financières, j'imagine qu'elles se répercutent très concrètement sur les économies locales.
Ah bah oui, tout à fait. Prenez l'exemple du Bénin, avec sa volonté de réduire les importations de poulets congelés, pour favoriser la production locale.
Oui.
L'objectif de souveraineté alimentaire, il est là, il est affiché. Mais la réalité économique, notamment le coût très élevé de l'alimentation animale, ça représente 70% des charges, ça rend la production locale, qui est de 10 000 tonnes, très insuffisante face aux importations qui sont de 100 000 tonnes.
Ah oui, l'écart est énorme.
Du coup, le report de l'interdiction qui était prévu fin 2024, ça illustre bien ce décalage entre l'ambition politique et puis les capacités réelles qui sont souvent limitées par des facteurs économiques structurels, quoi.
Et cette fragilité économique, ce manque de capacité, ça se double parfois d'une fragilité institutionnelle, c'est ça ?
Oui, les sources qu'on a vues évoquent des situations préoccupantes au Cameroun, en Centrafrique aussi.
Oui, ce sont des illustrations malheureusement de la manière dont la confiance dans les institutions peut être érodée.
Au Cameroun par exemple, les fuites de sujets du bac, maths, anglais, sur les réseaux sociaux.
Oui, j'ai vu passer ça.
Eh bien ça reste sans réaction officielle une semaine après. Ça provoque la colère, et on peut le comprendre, du SECARA, le syndicat des enseignants. Et le soupçon qui plane, c'est que l'absence de réaction vise peut-être à éviter le coût d'une reprise des épreuves, ce qui est particulièrement dommageable pour la crédibilité de tout le système, évidemment.
Bien sûr. Et en Centrafrique, la Cour pénale spéciale, la CPS, créée il y a 10 ans pour juger les crimes graves depuis 2003, le bilan est jugé mitigé,
Oui, assez mitigé.
Peu de procès majeurs, finalement, des critiques sur la lenteur, sur le fait de ne juger souvent que les exécutants. Et en plus, le retrait du financement américain risque d'affaiblir encore cette institution qui est censée incarner la justice.
C'est ça. Ces exemples montrent bien que la solidité des institutions nationales, c'est un facteur absolument clé. Sans institutions crédibles, efficaces, que ce soit dans l'éducation, la justice, l'administration, c'est très difficile de transformer les opportunités.
Qu'elles viennent d'investissements externes, comme Bill & Gates ou Benny Hill.
Ou même d'initiatives plus ciblées, comme ce projet au Togo d'ailleurs. Le Togo a obtenu près de 39 millions de dollars via l'ABAD et le Fonds vert pour le climat.
Ah oui ?
pour moderniser ces zones de transformation agro-industrielle, avec une approche climat résiliente, énergie renouvelable. C'est une initiative positive, c'est même une première pour le Fonds vert dans ce type de zone en Afrique. Mais là encore, son succès dépendra aussi de la bonne gouvernance locale.
Donc ce tour d'horizon rapide, ça révèle vraiment une Afrique aux prises avec des forces contradictoires, d'immenses potentiels, des soutiens externes significatifs,
oui,
mais freinés par des systèmes financiers mondiaux qui drainent les ressources, et puis des défis internes liés à la gouvernance, à la capacité institutionnelle.
C'est toute la complexité, voilà. On voit coexister des promesses qui pourraient être transformatrices et en même temps des obstacles systémiques bien réels. Du coup, ça nous laisse avec une interrogation fondamentale pour l'avenir, je pense. Pour débloquer un développement plus rapide, plus équitable, est-ce qu'il faut prioriser la réforme des règles financières internationales pour essayer d'endiguer ces fuites aux inéries ?
Ou alors,
faut-il concentrer les efforts sur le renforcement des institutions, de la gouvernance au niveau national ? Ou bien, est-ce que ces deux chantiers sont tellement liés, intrinsèquement liés, qu'on ne peut pas vraiment avancer sur l'un sans progresser sur l'autre ?
C'est une vaste question.
Oui, une question ouverte pour la réflexion, assurément.